Je ne doute guère que les évangélistes et les apôtres aient parlé beaucoup plus ouvertement et clairement de bien des grands mystères insondables en s'adressant directement aux gens qu'en écrivant. Extrait d'une lettre du chancelier d'Angleterre, Thomas More.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le roi Henri VII meurt en 1509. Il a été le gagnant de la guerre des Deux Roses que j'évoquais lors de ma précédente chronique. Et en 1509, il laisse le trône à son fils Henri VIII. Celui-ci est un solide jeune homme de 18 ans que Holbein a campé bien ancré sur ses deux jambes et qui va marquer jusqu'à sa mort en 1547 le royaume d'Angleterre. Dans le cadre de cette chronique, il ne s'agit pas de faire un résumé du règne d'Henri VIII, mais plutôt d'aborder la question religieuse, c'est-à-dire les débuts de la réforme anglaise qui, à terme, va donner naissance à l'Église d'Angleterre. Au début du règne, il est indéniable que Henri VIII se veut un fidèle catholique. En effet, il défend la foi catholique et quand il y a les premières prémices de la réforme luthérienne, eh bien, il va décider de combattre celle-ci et véritablement, il mérite ce titre que le Saint-Siège lui donne de défenseur de la foi. Mais ce qui était valable en 1521 ne l'est plus à la fin de la décennie. Il est certain que assez tôt dans son mariage avec Catherine d'Aragon, le roi a songé finalement à s'en séparer. Il a eu des maîtresses, mais ça, il n'a pas été le seul souverain de la chrétienté à en avoir. Mais surtout, il est infidèle à sa femme parce que celle-ci ne lui donne pas d'héritier mâle. Et donc, véritablement, il a là un problème dynastique qui inquiète Henri VIII. Aussi, il a sans doute, dès 1525, envisagé un divorce. Il lui faut l'accord de Rome. Et il en pose le principe en 1527 auprès de la cour de Rome. Or, Clément VII refuse. Il faut dire que Catherine d'Aragon refuse obstinément l'idée de la séparation. Charles Quint, d'ailleurs, soutient sa tante, d'autant plus qu'il est maître de l'Italie après le terrible sac de Rome qui a tellement bouleversé la ville éternelle. Aussi, finalement, il est prévu de faire pression sur le souverain pontife pour obtenir la séparation. Le chancelier Wolsey se fait fort de l'obtenir. Or, en fait, eh bien, Wolsey n'accepte et ne réussit rien. C'est-à-dire que Rome se bute sur la question du divorce. Il n'y aura pas de séparation entre Catherine d'Aragon et le roi Henri VIII. À partir de ce moment-là, à partir de cet événement, eh bien, le roi songe indéniablement à rompre vis-à-vis de Rome. Or, c'est vrai que l'Angleterre de son temps connaît, je dirais, des sentiments divergents vis-à-vis du catholicisme. Il y a à la fois un attachement, il y a des réseaux catholiques extrêmement importants, mais il y a une impopularité de la fiscalité pontificale. Il y a le sentiment finalement aussi d'un éloignement de Rome, car l'Angleterre est si loin. Et puis il y a aussi les traditionnelles moqueries sur l'instabilité du clergé, sur les monastères qui ne serviraient pas à grand-chose, sur les évêques qui ne sont pas toujours résidents. Donc il y a une hostilité croissante vis-à-vis de Rome. Qui plus est, les premiers signes de la réforme avaient été combattus, comme je l'ai signalé, par Henri VIII. Mais néanmoins, apparaît en 1525 une première traduction anglaise du Nouveau Testament, due à la plume de William Tyndale. Et plusieurs membres de la haute noblesse anglaise sont gagnés par le mouvement, en particulier dans le sud de l'Angleterre. Et donc, le luthérianisme commence à se répandre dans une partie des esprits. Parce que finalement, ça rappelle ce que proclamait à la fin du XIVe siècle John Wycliffe, prêtre de son état, professeur à Oxford, et qui prônait une réforme profonde de la papauté, qui prônait également un accès direct aux Écritures, et qui a indéniablement influencé des mouvements sociaux que l'on a appelés en Angleterre le Lollardisme. Donc, il y a un terrain favorable à une rupture que va décider le souverain. La rupture va survenir en 1533 par l'acte de restriction des appels. C'est un aspect juridique de la rupture, puisque les appels que le clergé anglais pouvait faire en cour de Rome pour des juridictions ecclésiastiques, eh bien, sont interdites. Le nouvel archevêque de Canterbury, nommé par Henri VIII, Thomas Cranmer, a pu prononcer de sa propre autorité le mariage d'Anne Boleyn et d'Henri. Ce qui fait qu'il y avait également nullité du mariage avec Catherine d'Aragon, décidé par le primat d'Angleterre. Autre élément de la rupture, c'est la question des monastères. Les monastères vont être progressivement privatisés. On va en expulser les congrégations, soit à peu près 11 000 personnes, et cela va permettre des transferts importants de propriété entre l'aristocratie et la bourgeoisie, la haute bourgeoisie anglaise, qui va bénéficier de ces terres désormais vacantes qui seront rachetées. D'autre part, le roi Henri est désigné comme la tête suprême de l'Église, avec néanmoins une cause conditionnelle, autant que la loi du Christ le permet. Or, cette clause est supprimée dans la version définitive de la loi de 1534, l'Act of Supremacy. Véritablement, là, nous sommes arrivés, effectivement, à une rupture. Mais cette rupture est à nuancer. D'abord, elle rencontre indéniablement des résistances, parce que une partie de la société anglaise reste attachée au catholicisme, à tous les réseaux de sociabilité que formait la vieille Église catholique. Sans compter que des provinces entières du royaume étaient attachées aussi à des monastères. Et finalement, de très nombreux paysans qui travaillaient pour les monastères se retrouvent sous des maîtres souvent plus difficiles et plus durs. Donc il y a des résistances populaires. Mais il y a une autre clause de cette rupture qu'il faut aborder, c'est la position même du souverain. Henri VIII, sur le plan de la pratique et de la foi, est sans doute resté catholique, mais un catholicisme qui finalement ne serait plus en union avec Rome. Mais sur le plan de la foi, des rituels, eh bien, il y aurait un maintien d'une liturgie catholique, d'habits liturgiques catholiques, et finalement d'une foi catholique qui serait comparable à celle qui était vécue sur le continent. Donc nous sommes un peu, si j'ose dire, à mi-chemin entre le catholicisme et une véritable réforme qui n'est pas encore véritablement luthérienne ou calviniste, mais qui est à mi-chemin et qui va donner lieu à cette Église d'Angleterre qui reste par bien des aspects extérieurs attachée au rite catholique. D'autre part, on s'interroge aussi en Angleterre sur la question de l'Eucharistie. L'Église d'Angleterre va accepter le principe d'une Eucharistie qui ne soit pas seulement, comme cela a été le cas pour les disciples de Calvin, eh bien un souvenir, une cérémonie destinée à se souvenir de la passion du Christ et non pas un des moyens d'obtenir la grâce de Dieu. Henri VIII est bien attaché à l'Eucharistie traditionnelle. De même, bien sûr, on reconnaît aussi le baptême comme fondement de la foi chrétienne, mais également d'ailleurs la pénitence. Donc véritablement, il y a à ce moment-là une espèce de double langage à la fois très anti-romain, mais attaché à des pratiques liturgiques de foi, y compris spirituelles. Il faut percevoir par exemple que le livre de Thomas à Kempis, L'imitation de Jésus-Christ, reste un des livres les plus lus dans l'Angleterre d'Henri VIII. Donc la Devotio Moderna reste effectivement quelque chose de populaire et qui rattache finalement à une vieille culture chrétienne du XVe siècle, l'Église d'Angleterre. En fait, ce qui va se dérouler par la suite, c'est plutôt après 1547 qu'il faudra l'observer, c'est-à-dire sous les règnes d'Édouard VI, sous les règnes de Marie Tudor et enfin d'Élisabeth, où l'on verra une religion en Angleterre chrétienne, mais se détacher complètement du catholicisme après bien des aléas, après la tentative de restauration de Marie Tudor, mais ce sera avec l'époque élisabéthaine que nous verrons véritablement un protestantisme anglais triompher.